pour évoquer des choses qu'on ne pouvait pas montrer de l'index. Le premier mot devait être un mot court et qu'il devait ressembler au mot qu'articulent les enfants. La sœur est aussi un tout petit peu amoureuse de son frère.
L'intermède radiophonique.
Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Il soupira de soulagement en entendant le bruit de l'ascenseur qui descendait. D'un geste machinal, sans se souvenir de son état, il écarta le couvercle du judas de la porte et regarda dehors. Mais c'est comme s'il y avait eu un mur blanc de l'autre côté. C'était comme s'il y avait eu un mur blanc de l'autre côté. Il sentait le contact de la sphère métallique contre son arcade sourcilière. Ses cils frôlaient la minuscule lentille, mais il ne pouvait pas les voir. L'insondable blancheur recouvrait tout. Il savait qu'il était chez lui. Il reconnaissait l'appartement à son odeur, à son atmosphère, à son silence. Il distinguait les meubles et les objets. Rien qu'à les toucher, à passer légèrement les doigts sur eux, mais c'était aussi comme si déjà tout cela se diluait dans une espèce d'étrange dimension. Sans direction ni référence, sans nord ni sud, sans bas ni haut. Comme tout le monde probablement, il avait parfois joué dans son adolescence au jeu de « Et si j'étais aveugle ?» Et après avoir fermé les yeux pendant 5 minutes, il était arrivé à la conclusion que la cécité, indéniablement un terrible malheur, pourrait néanmoins être relativement supportable si la victime de semblables coups du sort conservait un souvenir suffisant non seulement des couleurs, mais aussi des formes et des plans, des surfaces et des contours, à supposer bien entendu que la dite cécité ne soit pas de naissance.
Il en était même arrivé à penser
que l'obscurité dans laquelle vivaient les aveugles n'était finalement qu'une simple absence de lumière, et que ce qu'on appelle cécité était quelque chose qui recouvrait simplement l'apparence des êtres et des objets, les laissant intacts derrière leur voile noir. Maintenant, au contraire, voici qu'il se trouvait plongé dans une blancheur si lumineuse et si totale qu'elle dévorait plutôt qu'elle n'absorbait les couleurs et aussi les objets et les êtres, les rendant ainsi doublement invisibles. comme il se dirigeait vers la salle de séjour, malgré la lenteur prudente de ses pas, en glissant une main hésitante le long du mur, il fait tomber par terre un vase de fleurs auquel il ne s'attendait pas. Il avait oublié sa présence, ou alors, sa femme l'avait mis là en partant travailler, avec l'intention de le placer ensuite dans un endroit approprié. Il se baissa pour évaluer la gravité de l'accident. L'eau s'était répandue sur le parquet ciré. Il voulut ramasser les fleurs, mais ne pensa pas au verre brisé. Un long éclat très fin se planta dans un doigt et il se remit à pleurer de douleur et d'abandon comme un enfant. Aveuglé de blancheur au milieu d'un appartement qui commençait à s'assombrir dans l'après-midi finissant. Sans lâcher les fleurs, sentant le sang couler, il se contorsionna pour sortir son mouchoir de sa poche et en entortilla tant bien que mal son doigt. Puis, à tâtons, trébuchant, contournant les meubles, marchant précautionneusement pour ne pas se prendre les pieds dans les tapis, puis à tâtons, trébuchant, contournant les meubles, marchant précautionneusement pour ne pas se prendre les pieds dans les tapis, il atteignit le canapé où sa femme et lui regardaient la télévision. Il s'assit, posa les fleurs sur ses genoux et désentortilla soigneusement le mouchoir. Il fut troublé par le sang, poisseux ou touché, et pensa que c'était parce qu'il ne pouvait pas le voir. Son sang était devenu une viscosité dépourvue de couleur, d'une certaine façon étrangère à lui, et pourtant lui appartenant, mais comme une menace de lui-même contre lui-même. Tout doucement, avec de légères palpations de sa bonne main, il chercha le mince éclat de verre tranchant, comme une minuscule épée, et formant une pince avec les ongles du pouce et de l'index, il réussit à l'extraire tout entier. Il entortilla de nouveau le doigt blessé dans le mouchoir, le serrant fortement pour étancher le sang, et fourbu, épuisé, il s'appuya contre le dossier du canapé. une minute plus tard en raison de l'un de ces fréquents renoncements du corps qui choisit certains moments d'angoisse ou de désespoir pour abdiquer, alors que s'il se laissait gouverner exclusivement par la logique, tous ses sens devraient être tendus et en éveil, il fut pris d'une espèce d'abattement, davantage somnolence que sommeil authentique, mais aussi pesant que celui-ci. Il rêva immédiatement qu'il jouait au jeu de « Et si j'étais aveugle ?» Il rêva qu'il ouvrait et fermait les yeux de nombreuses fois et que chaque fois, comme s'il revenait de voyage, il retrouvait, l'attendant, solide et inchangé, toutes les formes et toutes les couleurs du monde tel qu'il le connaissait. Sous cette certitude rassurante, il sentait néanmoins percer un doute sourd. Il s'agissait peut-être d'un rêve trompeur dont il lui faudrait s'éveiller tôt ou tard sans savoir quelle réalité l'attendait. Ensuite, si ce mot peut s'appliquer à un abattement qui ne durera que quelques secondes, déjà dans cet état de demi-sommeil qui prédispose à l'éveil, il pensa sérieusement qu'il n'était pas bien de se maintenir dans une telle indécision. Je me réveille, je ne me réveille pas. Il arrive toujours un moment où la seule solution, c'est d'oser. Qu'est-ce que je fais ici, avec ces fleurs sur les genoux et les yeux fermés? On dirait que j'ai peur de les ouvrir.
Qu'est-ce que tu fais là, en train de dormir, avec ces fleurs sur les genoux?
Lui demandait sa femme. Qu'est-ce que tu fais là, en train de dormir, avec ces fleurs sur les genoux? Lui demandait sa femme.
COSMORAMACOSRAMAMA